L'épluche livre.
Alors vous allez avoir droit à une recette exceptionnelle.
Inédite.
Que faut-il pour faire
Pas grand chose. Voilà, qu'on coupe en deux.
Bien propre.
Ici, ça va me servir d'épluchure.
Vous voyez, ce livre, il est beau. Il a une belle typographie. Il a une belle gueule. Les livres ont une belle gueule comme les gens.
C'est un peu comme une fleur, en fait. Hein. C'est plein de pétales qui sont en strate, comme ça. Et il s'agit de venir gentiment les dégager.
Quand on lit des livres passionnants, ça devient même très passionnant.
Et je viens gratter, en fait, les premières couches, comme ça.
Puis ce goût des mots, eh bien, il est resté en moi avec beaucoup de vivacité.
Et on referme le couvercle et on mange. Des cornichons, de
la
moutarde.
La littérature et la radio ont en commun de provoquer des images. Je dis provoquer, mais on pourrait tout aussi bien parler d'invocation, de suggestion ou, mon préféré, d'invitation. La littérature et la radio ont en commun qu'elles n'imposent pas, elles n'imposent aucune image directement à nos yeux. Nos yeux déjà emplis, inondés de lumière et de couleurs. Et pourtant, on parle bien, en littérature comme en radio, d'illustrer un texte, un propos, que ce soit en donnant un exemple concret ou une interview. Vous écoutez L'Épluche Livre, le sujet de ce jour est l'illustration en librairie et le livre illustré.
Cache des carottes dans les champs de choux de la cousine Charlotte. Célestin change de chapeau car il est coquet comme un coquelicot.
Nous recevons aujourd'hui Gaëlle Hersan. Bonjour Gaëlle.
Bonjour.
Comment allez-vous?
Très bien.
Oui. Vous êtes illustratrice.
Tout à fait.
Oui, depuis quand?
Depuis environ 2010.
Super, ça commence à faire...
Un petit temps, effectivement.
Un petit temps. Est-ce que vous pouvez définir votre métier? Qu'est-ce que être illustratrice?
Alors, c'est arriver à poser des traits, des images sur des textes, effectivement. Donc, c'est très littéral. Poser des ambiances... arriver à mettre sur papier les couleurs, les lumières que un texte peut me donner, les impressions qu'un texte peut me suggérer, en fait. Alors, je suis illustratrice et aussi autrice de bande dessinée, et là, ça va être encore autre chose. Mais c'est vrai que ça va être vraiment... essayer d'emporter le lecteur dans un monde, alors peut-être de le lui imposer d'une certaine façon en lui montrant, mais néanmoins, j'essaye, oui, d'emmener par la main le lecteur et la lectrice.
Est-ce que vous pouvez nous expliquer, nous raconter, du moins, comment on devient illustratrice, dessinatrice? Comment vous l'êtes devenue?
Alors... c'est une phrase, une explication qui est assez souvent donnée, c'est qu'à la base, tous les enfants dessinent. On dessine tous. On s'éclate tous avec un crayon à la base, avec les couleurs, à juste faire des traits et de voir les matières arriver, les couleurs, etc. Et c'est juste qu'on est quelques-uns à ne pas s'arrêter. Pour différentes raisons, certains juste parce que ça leur donne une place sociale dans la classe et qu'on devient le ou la dessinatrice de la classe. Et ça, c'est cool quand tout le monde vient nous voir et nous fait « Hey, tu peux me dessiner ça ?» et que ça nous valorise, il faut bien l'avouer. Et c'est souvent un besoin, en fait, une manière d'être aussi dans notre monde, dans notre bulle, d'arriver à canaliser notre esprit et... à se concentrer sur ce petit bout de papier. Donc, au final, c'est aussi un besoin, une envie qu'on a et qu'on entretient pendant toutes ces années. Et il y a le fait aussi de voir toutes ces belles images aussi qui nous entourent, qui peuvent nous nourrir, qu'on voit à la télé, avec tout ce qui est dessin animé, Les jeux vidéo maintenant, tout ce qui est aussi les livres illustrés qui nous nourrissent et qui nous donnent envie, en fait, de continuer. Et souvent, on se dit, ouais, moi aussi, je veux faire pareil. Quand je serai plus grand, je ferai aussi bien. Des fois, ça marche.
C'est super. Quelles études, hein, quel diplôme, ou est-ce qu'il n'y en a pas, peut-être ?
Alors, maintenant, c'est devenu vraiment... Il y a tout un marché des écoles. Quand je les ai faites, il y en avait un petit peu moins, mais il y en avait. J'ai fait d'abord le lycée art plastique, donc section L et spécialisation art plastique. J'ai fait les Beaux-Arts d'Angoulême, où c'est de l'art contemporain avant toute chose, des Beaux-Arts, parce que je pensais qu'il y avait vraiment la spécialisation bande dessinée, vu que c'est ce que je voulais faire. Il y avait de la bande dessinée, mais aussi de l'art contemporain, donc c'est aussi encore un autre sujet. Et ensuite, j'ai fait l'EMCA, qui est l'école des métiers du cinéma d'animation, à Angoulême encore, où là, j'ai appris à faire du cinéma d'animation, qui est beaucoup plus un métier, enfin, qui forme beaucoup plus à un métier où, quand on sort, on trouve beaucoup plus de débouchés et un salaire.
Voilà. C'est vrai que c'est pas mal important.
Voilà.
Éventuellement, un salaire à la fin du mois, c'est sympa. Votre quotidien professionnel, comment ça se passe, une journée ou une semaine en illustration ? Vous illustrez des BD, mais pas que. Racontez-nous un petit peu.
Alors, il y a quelques années, un peu moins maintenant, mais... Je travaille environ 8 heures. Après, je suis quelqu'un d'assez cadré parce que je pense que c'est plutôt important de s'imposer son propre cadre afin que ça ne devienne pas débordant et d'arriver à avoir une certaine hygiène de vie. Parce que je suis indépendante, il n'y a personne qui me donne des ordres, il n'y a personne qui me dit quand arriver, etc. Donc ça, c'est un truc qui est plutôt chouette. Mais le revers de la médaille, c'est aussi des... juste de l'argent qui est un peu plus... des rentrées d'argent plus sporadiques.
Oui, en tant qu'indépendante, vous gérez vos budgets, vos charges, voilà. Votre URSSAF, vous facturez, je suppose, vous travaillez à la commande.
Voilà, tout à fait. Et en fait, c'est arriver à gérer entre différents projets. Donc, par exemple, en ce moment, j'ai 2 projets d'illustration pour des manuels scolaires. J'ai 2 projets à monter en bande dessinée. Mmh. J'ai un projet d'illustration pour un musée qui est en train de se monter aussi. Et donc, c'est arriver à jongler entre tout ça, suivant les semaines, d'arriver à me dire, tiens, là, sur cette matinée-là, je vais travailler plutôt tel projet. Et... là, j'ai enfin mis dans mon bureau, mon atelier, un petit planning avec absolument tout, de quand est-ce que je dois rendre, avec les dates, etc. Il faut être assez organisé pour justement pas se retrouver complètement paniqué avec les deadlines. Mm. En tout cas, moi, j'y arrive pas. Il y en a qui arrivent. Moi, j'ai besoin de sécurité et de bien tout temporiser. Et il y a aussi... il y a quelques années, il fallait passer du temps à envoyer des mails, envoyer des mails à des éditeurs, faire ce qu'on appelle des books, des portfolios, donc des recueils de nos images les plus représentatives pour envoyer aux éditeurs et leur dire « Bonjour, j'existe, j'aimerais beaucoup travailler avec vous, c'est très très chouette ce que vous faites, donnez-moi de l'argent s'il vous plaît. »
C'est vrai, parce que comment on démarre finalement ? Parce que là, bon, vous êtes implanté, vous êtes installé, ça fait plusieurs années que vous travaillez, vous faites ce métier, donc je suppose que vous avez votre réseau, votre contact professionnel qui est quand même établi. Mais au départ, quand vous êtes sorti donc de M4, c'est ça ?
L'EMCA.
Il a quand même fallu démarcher, montrer ce que vous faites, montrer votre art. Comment ça se passe ?
Alors, ce qui s'est passé pour moi, donc, suite à l'EMCA, j'ai pu travailler dans le cinéma d'animation. Donc, j'ai travaillé quelques années à Paris, notamment dans différents studios. À côté de ça, ce qui est très important, en fait, c'est le relationnel, le réseau. Je pense que ça, on le dit des fois pas assez dans les écoles. Mais arriver à monter un réseau, à arriver à connaître des gens, par exemple, aller dans les différents salons, notamment celui de Montreuil, qui va avoir lieu à la fin du mois, qui est le salon d'illustration jeunesse, où il peut y avoir des rencontres avec les éditeurs, où on peut montrer notre book. Donc, prendre des contacts. Tout ça, c'est vrai que ça demande pas mal d'énergie, pas mal de temps. Donc, faire un book, c'est-à-dire imprimer aussi sur papier nos meilleures images, avoir les petites cartes de visite et aller démarcher. En fait, c'est aussi tout un boulot qu'on n'apprend pas forcément.
Tout à fait.
Et maintenant aussi, donc là, je parle d'une époque où les réseaux sociaux n'étaient pas aussi importants. Et maintenant, il y a tout le travail des réseaux sociaux qui, pour certains, ça marche très bien, pour d'autres, moins bien, parce qu'il faut arriver à comprendre les algorithmes et arriver à créer du contenu, à avoir une communauté, etc. C'est assez compliqué, ça demande beaucoup d'énergie. En fait, c'est vraiment multimétier. On va croire que l'illustration, l'auteur, l'autrice, va avoir juste comme métier le fait de dessiner et d'illustrer des textes. Mmh. Et en fait, pas du tout. C'est vraiment plein de casquettes différentes entre l'espèce de marketing de soi, d'arriver à se présenter et avoir tous les contacts avec les éditeurs, puis avoir le lectorat, arriver à monter une communauté, etc., etc. C'est vrai que ça demande aussi beaucoup de temps et il faut arriver à s'en préoccuper. Et ça peut rentrer justement dans ce temps de la semaine de travail. Personnellement, ce qui est nourrir les réseaux sociaux, j'avoue que j'y arrive pas trop.
Bon, en soi, si je comprends bien, c'est un plus quand même. Ou alors c'est quand on démarre, parce qu'une fois qu'on a notre, enfin une fois que vous avez votre réseau de contacts professionnels, les commandes arrivent quand même, je suppose, assez régulièrement. On vous fait confiance. Il y a plusieurs équipes qui peuvent faire appel à vous. Je questionne. Hein,
Alors, je pense que c'est vraiment suivant les profils.
D'accord.
Et puis aussi, peut-être suivant maintenant les générations, il y a des jeunes autrices. Alors je dis autrices parce que je les ai plus en tête et je les suis plus que les jeunes auteurs, qui arrivent maintenant à vraiment se démarquer du monde éditorial plus, on va dire, traditionnel et qui arrivent à avoir vraiment leur communauté et à faire tout, à être assez indépendante par rapport à ça.
Mais quel impact, autre que d'image, quel impact ont les réseaux sociaux concrètement? Parce que bon, une communauté, on parle de likes, on parle de petits cœurs sur Insta. Qu'est-ce que ça impacte vraiment dans votre travail, quant à vos commandes, quant à votre rémunération?
Alors, personnellement, pas grand-chose. Voilà, c'est vrai que ça peut me faire connaître dans le milieu professionnel. Ouais. Par exemple, pour d'autres, elles vont pouvoir monter des crowdfunding. Et là, à partir de là, elles vont mobiliser leur communauté. En fait, c'est vraiment arriver à transformer les communautés avec le crowdfunding et en financeurs.
D'accord. Là, on sort un peu, finalement, du parcours traditionnel, comme vous le disiez.
C'est comme ce que j'ai eu.
Ce ne sont plus des commandes que vous avez ou des partenariats avec un auteur ou des co-écritures, finalement. Là, c'est l'illustratrice qui va utiliser donc, le soutien d'une communauté, qui va utiliser, finalement, son influence. Là, on est presque sur des illustratrices influenceuses.
Quelque part, oui.
Pour avoir son projet personnel et ensuite soumettre ce projet, je l'espère très fort, à un éditeur pour qu'il soit publié et pas forcément en auto-édition. Mais bon, voilà, ça c'est, comme vous dites, une part de métier quand même assez nouvelle et on ne sait pas si ce genre d'économie va durer finalement. Ça fait que 2-3 ans que ce genre de choses est possible.
Je pense depuis plus longtemps.
Plus longtemps ?
Plus longtemps et c'est vrai que j'ai en tête quelques personnes qui y arrivent quand même depuis quelques années.
D'accord.
Et sinon, c'est vrai que de mon côté, à part effectivement montrer mes nouveautés et mettre au courant, c'est vrai que maintenant, j'ai beaucoup plus tout mon réseau et ça vient plus facilement.
D'accord, quand même. Il y a quand même un plus ajouté.
Quelque part, oui, je pense.
Ok, super. Et justement, qu'avez-vous... Enfin, quand vous illustrez, donc vous avez un dialogue texte-image qui est important. Je suppose qu'il y a un dialogue avec les auteurs aussi, parce que vous n'écrivez pas de texte ou de scénario.
Tout à fait. Je suis juste illustratrice dessinatrice. pour moi, c'est très important aussi de connaître la personne avec qui je travaille. C'est vrai que là, sur le Calamity Jane aux éditions Glénat, j'ai travaillé avec Marie Bardiot-Vaillante, qui est une amie depuis plusieurs années, et sur laquelle je la suis complètement dans tous ses engagements. Et c'est vraiment quelqu'un avec qui j'ai envie de continuer à travailler. Hubert, je le connaissais depuis quelques années. Et pour lui aussi, en fait, il ne faisait de texte qu'avec des amis. Et je pense que, en tout cas, cette synergie-là, pour moi, est importante. Autant, peut-être pour des travaux plus courts, si je ne connais pas vraiment la personne, ce n'est pas grave. Mais quand c'est aussi engageant qu'un projet de bande dessinée qui va prendre deux ans et demi de travail, je préfère nettement connaître la personne, parce qu'au moins, tout ce qui est relation, c'est rassurant.
Oui, vous savez que vous partez sur un partenariat qui va fonctionner.
Voilà.
Ouais, c'est du travail sur du long terme quand même.
Tout à fait.
On va faire une petite pause musicale. Je vous laisse écouter ce qu'a choisi pour nous Gaëlle Hersant.
Thank you.
Vous êtes sur L'Épluche Libre, nous sommes en compagnie de Gaëlle Hersant et nous venons d'écouter
un morceau de la bande originale de Mononoke Hime de Joe Hisaishi.
Vous le prononcez tellement bien, j'ai pas voulu m'y risquer. Donc Gaëlle Hersant, qui est illustratrice, est notre invitée aujourd'hui. J'ai une petite question pour vous, Gaëlle. Vous avez beaucoup parlé d'animé, et on vient d'écouter donc une bande-son d'un animé connu.
Princesse Mononoke, oui.
Quelle est l'influence du cinéma d'animation sur votre travail ?
Je pense qu'il a été assez énorme, en fait, tout simplement parce que quand j'ai vu Princesse Mononoke à 15 ans, ça a été une claque, en fait. Ça, je me suis dit, c'est possible de faire ça. C'est un film qui a une énorme influence, en tout cas émotionnelle et affective pour moi. Et c'est vrai que c'est vraiment cette possibilité de se dire, on peut donner tous ces sentiments, toutes ces émotions aux gens par le cinéma, par la bande dessinée, par les récits en fait qu'on va amener. Et pour moi, c'est extrêmement important en fait de pouvoir apporter tout ça au lecteur, à la lectrice. Donc, oui, c'est quelque chose de pouvoir apporter de l'imaginaire.
Ouais. Les mots sont forts. Qu'est-ce qui donne un sens à votre métier ? C'est ça ? C'est l'apport de l'imaginaire ?
Oui, je pense que c'est extrêmement important, en fait. Parce que mine de rien, quand on est enfant, adolescent, et même maintenant, de pouvoir lire des récits, de pouvoir créer de l'empathie avec les personnages, de vivre plein d'expériences avec eux et d'avoir plein d'émotions, de pouvoir comprendre les situations, pour moi, c'est extrêmement important. Et je pense que le livre, les récits apportent ça. Mmh. Et c'est vraiment, vraiment une part qui m'anime.
C'est très... Ça construit la personne. Hein. Enfin, je le constate aussi dans mon métier au quotidien. Concernant votre travail, je vais avoir une question un petit peu plus pratique. Quel matériel l'on utilise en 2024 quand on est illustratrice ?
Alors, on peut un peu tout mélanger. Donc, par exemple, j'utilise ce qu'on appelle une Cintiq. C'est une espèce de... Pour moi, c'est très grand. C'est un grand écran qui est... sur lequel il y a un stylet, donc une espèce de stylo, pinceau, tout en plastique, évidemment, mais qui est néanmoins avec une mine assez sensible et qui va venir dessiner sur l'écran. Et donc, j'utilise donc, cette Cintiq, Photoshop ou Clip Studio, enfin, des logiciels dédiés au dessin. Donc ça, c'est une part pour, par exemple, la colorisation, donc la phase de mise en couleur du dessin. Et pour ce qui est avant... je peux travailler sur papier parce que, mine de rien, j'aime énormément la sensation du pinceau sur le papier. Et il y a un côté très collectionneur aussi, un petit peu à chercher le meilleur outil qui vous convient avec le meilleur papier. Il y a un vrai plaisir à ça et que je ne retrouve pas forcément avec l'outil informatique qui, mine de rien, est des fois un peu froid. Mais qui peut s'avérer très pratique si on veut, avec le client, modifier, etc. Donc, en fait, l'outil informatique vient en amont sur tout ce qui est rough, crayonné, pour pouvoir soumettre au client et être d'accord, se mettre d'accord avec lui sur l'image finale, finaliser l'image sur du papier et des fois la mettre en couleur sur ordinateur.
Ok. Donc tout ça, ce sont des techniques que vous apprenez en école, je suppose, parce que c'est quand même là aussi des compétences un peu transversales. On ne parle pas que de dessin, on parle quand même de logiciels informatiques assez pointus.
Alors, pas forcément. Alors, il y a fort fort longtemps, non, j'ai pas forcément appris Photoshop à l'école, c'est d'accord. Plutôt avec mes pairs, c'est en regardant les autres et en demandant, en suivant aussi des tutos maintenant, dernièrement sur Internet. Mais sincèrement, non, la technique, ce qui est vraiment technique, on ne l'apprend pas aux Beaux-Arts. Donc,
d'accord.
Ça, c'est fait. Non.
Très bien. Donc là, encore un petit peu de débrouillardise.
Tout à fait.
Comme si tout ce qui était gestion du temps, gestion financière et contractuelle n'était pas suffisant. Voilà.
Voilà. Donc,
on dessine, c'est le cœur de métier, mais à côté, il faut savoir quand même s'adapter aux réseaux sociaux, au réseau, donc relationnel, professionnel, aux commandes, à la gestion du temps, ainsi qu'au matériel informatique qui est très présent.
Et à la gestion de la comptabilité.
Et la comptabilité, ça, c'est une merveille. Donc, pour terminer, votre statut pro, donc vous êtes indépendante, c'est bien ça, illustratrice indépendante.
Oui.
Est-ce que vous faites partie des chartistes ? Est-ce que ça vous parle ?
Oui, tout à fait. Alors, je fais partie du SNAC.
Du SNAC.
Syndicat national des auteurs-compositeurs, donc je ne suis pas à la charte des illustrateurs.
D'accord, ok. Vous avez quand même... Donc, la charte, c'est au départ un collectif d'illustrateurs qui s'est dit à un moment donné, on en a marre qu'on nous explique que notre travail, enfin qu'on dévalorise en fait finalement leur travail, et ils se sont mis ensemble pour créer des grilles tarifaires, des grilles de rémunération, des contrats, enfin plein de choses pour aider justement les illustrateurs indépendants à valoriser leur métier, à valoriser leur position donc aussi dans la chaîne du livre pour nos auditeurs. Hebdomadaire, la chaîne de livres, vous commencez à connaître un peu ce que c'est. Et pourquoi faire partie de la SNAC et pas de la charte ?
Alors, le SNAC BD, en fait, s'est construit au début des années 2000,
donc
je crois, à peu près, c'est
charte.
Un peu plus récent.
Ouais.
Je pense que c'est vers 2005, faudrait vérifier. Et ce sont un groupe d'à peu près un peu plus d'une dizaine d'auteurs de bande dessinée qui ne se retrouvaient pas forcément dans le groupe des illustrateurs.
Enfin, oui.
Ça reste... tout de même des métiers un peu différents entre illustrateur jeunesse, illustrateur et auteur de bande dessinée. Mmh. Donc les revendications ne sont pas forcément les mêmes.
Okay.
Même si on a des terreaux communs, y a des différences qui ont fait qu'il y a un groupe qui a décidé d'aller toquer à la porte du SNAC, syndicat national des auteurs-compositeurs, et de dire oui, bonjour, on voudrait faire une petite section BD à l'intérieur du syndicat. Est-ce que c'est possible ? Oui, c'est possible, merci. En fait, c'est aussi parce qu'à ce moment-là, il y avait Emmanuel Dorin-Gervais, qui est un juriste qui est très compétent et qui leur a dit ce qui était possible et comment se défendre et de monter plusieurs projets, il y a un contrat commenté par exemple qui s'est fait où on décortique tout le contrat d'édition qui est quand même un sacré morceau.
Qui est quand même un sacré morceau, on est d'accord. Donc malheureusement, j'aimerais encore continuer à discuter avec vous pendant un long moment. Mais il ne nous reste qu'une minute pour cette émission et j'aimerais mettre en avant comme conseil lecture ce jour votre dernière parution. Si je ne me trompe pas, a paru en septembre le titre Calamity Jane. Est-ce que vous pouvez nous en parler rapidement ?
Alors, il fait partie d'une collection sur le western. Et avec Marie, donc, on a décidé de ne pas forcément être sur le côté grandiose, mais de s'attacher à la vie de Calamity, à la vie au jour le jour et de la rendre plus humaine.
Très bien. Voilà. C'est à destination de quel âge ?
Ado-adulte.
Ado-adulte, ok. Donc, c'est une biographie BD illustrée de Calamity Jane.
Tout à fait.
Parue chez qui ?
Glénat.
Chez Glénat et disponible en librairie. Je vous remercie, Gaëlle.
Je vous remercie
merci
aussi.
Merci beaucoup d'avoir répondu présente et merci à tous les radiophiles qui nous écoutent à l'Épluche Livre. Bonne journée à tous.
L'Épluche Livre.
Vous allez avoir droit à une recette exceptionnelle.
Inédite.
Que vaut-il pour faire
Pas grand-chose. Voilà, qu'on coupe en deux.
Bien propre.
Ici, ça va me servir d'épluchure.
Vous voyez, ce livre, il est beau. Il a une belle typographie. Il a une belle gueule. Les livres ont une belle gueule comme les gens.
C'est un peu comme une fleur, en fait. Hein. C'est plein de pétales qui sont en strates, comme ça. Et il s'agit de venir gentiment les dégager.
Quand on lit des livres passionnants, ça devient même très passionnant.
Et je viens gratter, en fait, les premières couches, comme ça.
Lui, ce goût des mots, eh bien, il est resté en moi avec beaucoup de vivacité.
Et on referme le couvercle et on mange des cornichons de la moutarde.